présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La liberté des dieux. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Ça le fait rire, ces conversations. Il se demande si elle se rend compte de tout le paradoxe qu'elle dit. Maintenant, elle s'habille mieux et se maquille, disons, d'une façon un peu plus parfaite. Pendant que Philippe est à ses cours et avec ses amis, l'oncle, lui, travaille. Il signe des contrats pour la vente de ses produits. Il travaille surtout en sous-traitance, comme beaucoup d'industriels, pour le groupe Franblanc, que vous connaissez bien entendu depuis l'élu. Il entre justement dans le siège Franblanc. Vous le connaissez pour y être entré très souvent. Une hôtesse en tailleur rouge, moulant et nue dessous, blonde, grande, va à lui. « Vous désirez, monsieur ?» Elle lui dit « J'ai rendez-vous avec monsieur Franblanc. » Elle lui dit « Veuillez, monsieur. » Il fait « Très volontiers, mademoiselle. » Très, très volontiers. Et ici, cette charmante jeune fille aux jambes longues et jupes courtes moulantes, très courtes même. Franblanc embauche d'anciennes danseuses du Lido pour la coin. Elle le mène à une banque où se trouve une jeune fille, habillée comme elle et blonde, lui dit un rendez-vous avec monsieur Franblanc, et elle les laisse. La femme à la banque demande « Vous êtes monsieur ?» Il lui dit « Je suis monsieur Almond, Joseph, et j'ai rendez-vous à 15h. » Elle regarde sur son ordinateur. Elle lui dit « Oui, je vois votre nom, votre carte s'il vous plaît. » Il lui donne sa carte. Elle la met sur l'écran. Votre pouce. Il lui dit avec le sourire, avec plaisir, je le mets où? Elle lui dit, simplement sur l'écran, monsieur. Il lui fait, dommage. Et le met sur l'écran. Elle regarde et dit, c'est bon. Lui rend sa carte. Prend le téléphone et fait un numéro. C'est l'accueil. Non, c'est Bella. Ça va? Oui, moi ça va. On se voit ce soir au restaurant? Bien. J'ai à l'accueil un monsieur Almond qui a rendez-vous à 15h. Non, c'est pas le type de François. Bon, je le fais monter. Elle décroche. Bon, nous allons vous mener à monsieur le président, monsieur. Elle fait signe à une autre poupée Barbie du Lido, une de ses collègues. Elle lui dit, monsieur, rendez-vous avec le président. La fille dit, bien, veuillez me suivre, monsieur. Et il suit cette sirène. Elle le mène à l'ascenseur. Ils sont entrés dans l'ascenseur. Il y a dans l'ascenseur un garçon d'ascenseur dans les 15 ans, blond, habillé d'une tunique moulante rouge. Il en faut pour tous les goûts et l'on trouve tout ce que l'on veut à Franblanc. Dans l'ascenseur, il y a une espèce de femme bizarre, large, de taille moyenne, cheveux jaunes vifs, très épais, tête ronde, yeux globuleux, grande bouche, maquillée à outrance. Elle porte un tailleur moulant, nu dessous, est trop petit pour elle. Elle a des chaussures à talons jaunes vifs. Elle a des boucles d'oreilles et un collier de chez Mati. Elle ne cesse de regarder le beau monsieur qui vient d'entrer dans l'ascenseur. Et lui regarde l'hôtesse. Enfin, ils arrivent à l'étage. Sortent de l'ascenseur. Ils suivent un long couloir où, tout au bout, se trouve une vaste porte capitonnée. Tout le long du couloir, il y a des gardes habillés de rouge. La jeune femme mène M. Almond à la porte. Là, elle appuie sur un bouton. La lampe verte s'allume. Ils entrent. C'est un bureau, un grand bureau où se trouve une secrétaire assise à son bureau. L'hôtel amène M. Almond au bureau. Elle dit à la secrétaire, « Monsieur Almond a rendez-vous à 15h. » Et elle les quitte. La secrétaire demande à M. Almond, « Votre carte, s'il vous plaît, monsieur. » Il lui donne. Elle la met sur l'ordinateur. « Votre pouce, s'il vous plaît. » Il le met sur l'écran. Elle regarde sur l'écran et apparaît la photographie de M. Almond, ses empreintes ADN et avec celui du pouce, son nom, son adresse, numéro de sécurité sociale, de compte en banque, emploi et, s'il appartient au groupe, son appartenance politique et religieuse, etc. Bien entendu, s'il appartient à un groupe politique ou religieux, il faut que ce groupe politique ou religieux et religieux soit de bon ton. Et la nationalité aussi, et ses origines. Et sa nationalité depuis combien de temps? Pour sa famille aussi. Dans sa carte, elle dit, « Bien, monsieur. » Elle prend le téléphone, fait un numéro. Allô? Allô, monsieur, c'est la secrétaire. J'ai près de moi monsieur Almond qui a rendez-vous avec vous à 15h. Puis-je faire entrer? Bien, monsieur. Elle a raccroché et dit à monsieur Almond, je vais vous faire entrer. L'entretien ne doit pas se prolonger au-delà de 20 minutes. Monsieur le président a beaucoup de rendez-vous. Elle se lève et lui dit, « Veuillez me suivre, monsieur. » Elle le met vers une porte à deux battants capitonnés où il y a une caméra, un microphone et une lampe. Elle appuie sur un bouton. Le voyant vert s'allume. Elle fait entrer M. Almond. Le bureau est immense, avec une grande baie vitrée qui se trouve, qui fait tout le côté du mur. Elle donne sur une grande terrasse, jardin, piscine. Derrière cette baie, il y a un grand bureau, une grande table de bureau qui est en verre. Elle est immense. Se trouve le téléphone avec écran vidéo. L'ordinateur aussi. Il y a devant le bureau deux fauteuils de cuir noir. À la gauche du bureau, qui fait tout un pan de mur, il y a une grande bibliothèque. Un peu plus loin, même beaucoup plus loin, un petit bar avec ordinateur. Plus loin encore, il y a le coin salon à avec fauteuil, canapé, table basse et bar en plus. Le tout est clair, lumineux, mur blanc et sol de marbre, tableau de maître sur les murs aussi. Monsieur Franblanc, que vous connaissez depuis l'élu, lorsqu'il voit entrer Monsieur Almont, se soulève et lui dit « Venez vous asseoir, Monsieur Almont. Monsieur le Président. » Franblanc lui dit « Pas de président entre nous. Nous sommes tous les deux présidents. » Almont va s'asseoir en face du bureau où il y a deux fauteuils. Prend celui de droite. Le Franblanc lui dit « Vous avez demandé à me parler, je vous écoute. » Joseph lui dit « Voilà, je suis venu pour me renseigner, pour m'informer. Je trouve que mes commandes sur mes produits pour le bâtiment diminuent d'une façon très inquiétante. Alors j'aimerais être assuré si c'était possible. » Franblanc lui dit « Oui, nous avons, hélas, ralenti la fabrication des immeubles bien volontairement. C'est à cause des contestations et émeutiers qui nous empêchent de travailler normalement, qui bloquent la démolition et freinent la construction. Vous savez qu'à Lyon, la réhabilitation de la ville est presque nulle. La ville est en feu et à sang. Les anarchistes veulent tout faire pour nous empêcher de travailler. Ils font même dérailler les trains de marchandises qui amènent nos produits. Monts bloqués, les chantiers attaqués. Tout ça, c'est nous déséquilibre. » Joseph lui demande « Et que font nos hommes en noir, les hommes de l'ordre ? Nos hommes sont débordés, mais ils font du bon travail, surtout à Paris, où ils évacuent les quartiers et les démolissent en une nuit. Quand je dis les quartiers, c'est plutôt les rues. Mais à Paris, il y a aussi des émeutes et on perd beaucoup de temps à cause de ça. Tout ceci ralentit notre production et en plus nous avons cette guerre en Afrique, mais qui nous permettra pour plus tard de reconstruire et en reconstruisant de refaire marcher à fond notre production. Là-bas en Afrique, lorsque la guerre sera finie, ce sera plus simple qu'en France, moins de choses à démolir. Et puis, parce qu'ils ont beaucoup moins de villes qu'ici. Et les gens sont plus calmes, dociles, donc moins d'émeutes. Joseph lui dit, oui, mais la guerre dure. On lui dit, elle ne durera pas éternellement. Et nous avons déjà des rapports avec des chefs des gouvernements qui sont prêts à nous aider à la gagner, cette guerre. Nous leur avons fait miroiter une bonne somme et un exil sur la Côte d'Azur. Il suffit que l'on attende et notre production marchera à plein régime. Almont lui dit, oui, mais en attendant, vous avez vos usines d'armement qui marchent en plein régime à la place du bâtiment. Franblanc lui dit, mais vous aussi. Oh, moi, c'est qu'une petite partie de notre groupe et vous nous refusez de nous lancer dans certaines fabrications. Vous savez bien que nous ne faisons que ce que vous nous proposez de faire. Franblanc lui dit, oui, nous ne voulons pas que vous vous lanciez dans le nucléaire. C'est à nous de le faire. Nous pouvons le faire pour vous? Non. Almon soupire et se dit que s'il était indépendant, il pourrait faire ce qu'il veut. Ah, s'il pouvait se passer de ce Franc-Blanc, il pourrait être plus fort que lui. Il a la technique, mais pas les moyens. Et puis Franc-Blanc a les exclusivités de tout. Tous les pays ont traité avec lui. Il ne reste plus rien aux autres. Et si un autre veut grossir, se passer de lui, il finit dans une boîte en aliments pour chien ou chat. Almon lui demande « Que faisons-nous puisque la fabrication de produits du bâtiment est bloquée ou presque ?»« Quoique, je vous ai amené en offre de fabrication de la toiture très légère et ressemblance à de l'ardoise et une grue électrique à laser. C'est le rayon laser qui fait déposer le matériel au millimètre près. Il sort de son dossier deux chemises. Franc-Blanc lui dit « Donnez-les-moi, je vais faire étudier tout ça. Mais je vous promets rien, j'ai fait bloquer le budget bâtiment pour l'armement. » Joseph lui demande « Vous faites toujours des résidences de grand luxe ?»« Ça oui. Eh bien, ça ira très bien pour ce genre de construction. » Franc-Blanc lui dit « Nous verrons, nous verrons. Bon, pour le moment, je ne vais pas vous commander plus de commandes que ce que nous vous demandons. Mais soyez patient. Pour ce qui est de l'armement, je vous demanderai c'est des mitraillettes à faire sous une marque quelconque et sans nom français. C'est à donner aux Africains. Nous avons réussi, c'est à voir leur marché avec l'armement africaine. Bien entendu, les mitraillettes seront moins performantes que les nôtres. Eh oui, mon cher, les affaires sont les affaires. Nous armons l'armée ennemie pour plus produire. Ils sont obligés, c'est de rester chez nous, malgré que nous soyons en guerre, que nous sommes en guerre contre eux. Parce qu'ils n'ont pas d'usine d'armement. C'est fait que s'ils ne faisaient pas, ils ne pourraient pas avoir d'armes. Et puis, ça nous arrange. On gagne de l'argent des deux côtés. Et que ce soit l'un ou l'autre qui la gagne, cette foutue guerre, de toute façon, on est gagnant des deux côtés. La France est satisfaite de cette chose. Car nous connaissons les armes de nos ennemis, parce que c'est nous qui les fabriquons et connaissons leurs capacités. Tout le monde est gagnant. La guerre est un grand marché. Et l'après-guerre, encore plus. Car quel que soit celui qui gagne, il faut qu'il reconstruise le pays pour qu'il soit rentable. Et pour cela, il a besoin de nous. Vous savez, c'est que l'eau est nue. Et l'Amérique ont donné leur accord pour que l'Afrique nous appartienne. Ce serait une première mondiale, un continent entièrement privatisé et à un seul groupe. Un essai. Et si tout va bien, ils étendront le système aux autres continents. Donc, quelle que soit la victoire de cette guerre, l'Afrique nous appartiendra. L'ONU l'a décidé. L'Amérique boude un peu, mais elle ne peut rien contre nous. Elle est trop faible. C'est affaibli durant des générations dans des guerres, disons islamistes. Voilà. Je vous passe le contrat de mitraillettes. Il nous en faut 500 000 le plus vite possible. Après 600 000. Je vous ai dit, je vous remercie, c'est déjà ça. Il se dit, bien sûr, lui, il se garde toutes les bonnes commandes. Framblant se lève et lui dit, je dois hélas terminer notre entretien. J'ai un autre rendez-vous, vous comprenez les affaires. Oui, bien sûr, monsieur le président. Il se lève. Blanc le raccompagne jusqu'à la sortie. Et lui dit, vous repartez tout de même avec une bonne commande. Joseph lui dit, vous regarderez tout de même mes nouveaux modèles. Oui, bien entendu. Le contrat de la commande des mitraillettes aura un cahier des charges, comme toujours. Vous verrez bien. Et vous tâcherez, c'est de commencer la production le plus vite possible. Ils ont besoin d'armes. Ils n'ont plus rien. Et ça ne fait pas bien que des ennemis se battent mains nues. Nous risquons, c'est d'avoir les humanitaires sur le dos, l'armée moderne, suréquipée, qui se bat contre des gens qui n'ont que les mains pour se défendre. Manifestations, chants, contestations, étudiantes et grandes et tout, et sans compter la gauche caviar, etc., etc. Allemand lui dit, oui, je comprends, je ferai pour éviter tout ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Et Allemand le quitte. Il se dit, si je pouvais passer de lui, il garde tous les bons contrats pour lui. Tu parles des mitraillettes à un petit prix et payable avec de la monnaie de singe, parce que la monnaie des pays africains ne valent rien. Peut-être à cause de la fatigue, de la préparation des examens, et aussi de ce qu'on lui a dit, il se sent mal. Il est en plein désarroi. Dehors, en marchant, il réfléchit avec tristesse et dégoût. De plus en plus à ses parents et se sent coupable. Se dit qu'il n'a pas assez et même pas du tout pensé à eux, qu'il les a vite oubliés. Il se demande pourquoi. Peut-être, il se dit que peut-être, oui, que les choses brutale, la mort, une nouvelle vie chez son oncle, toutes ces nouveautés pour un enfant de 10 ans ont pu lui faire oublier sentimentalement ses parents. Et puis il était en pension avant l'accident ou le crime, le drame plutôt. mais il se dit que ce n'est pas une excuse. Il doit s'avouer qu'il n'est qu'un égoïste. Et c'est ça qui lui a fait oublier ses parents. Et ne pas demander ce qui lui était arrivé. Il n'a pensé qu'à son bien-être dans sa nouvelle vie avec son oncle. Son oncle, qui lui a fait vivre une vie très agréable, pleine de douceur et de tendresse. Ça a agi comme une drogue, ce qui l'a empêché de penser. Mais il se demande si ça a réagi autrement avec un autre. Là, l'arme a bien marché, puisqu'il était égoïste. Et qu'il est égoïste. Pourtant, il aimait bien ses parents avant l'accident. Alors pourquoi les avoir oubliés si vite? Il se sent coupable, très coupable. Il n'a pas pensé qu'ils sont morts d'une mort atroce, brûlés dans une voiture, tués. Pas une fois, il ne sait imaginer la chose. Il se dit qu'il mériterait la mort, oui, la mort, pour avoir été si égoïste. La mort, oui, peut-être que seule la mort peut réparer son insouciance. Lui aussi serait puni et connaîtrait la souffrance. Il s'imagine se laissant mourir en pensant à ses parents. Il se dit que ça fait des années qu'il n'a pas regardé leurs photos. Alors, une fois dans sa chambre, Hersch, il ne sait plus où elles sont. Enfin, il les trouve au fond du tiroir de son bureau, dans un vieux portefeuille en cuir noir. Photo toute simple. Oui, toute simple, en couleur un peu passée. Photo d'amateur, où l'on voit, près d'un arbre, son père et sa mère, en plan américain. Le père est derrière sa mère et en lance de ses bras. Elle porte une robe blanche à petits pois rouges. Lui a un costume beige. Il est un peu plus grand qu'elle. Ils sourient tous deux. Elle a un sourire plus triste, mais sourit. Ils sont beaux tous les deux, blonds et jeunes. Philippe est ému en les voyant et se dit que ce sont eux. Il a l'impression qu'ils ne sont que tous les deux, que rien d'autre ne compte pour eux, malgré la petite mélancolie de la mère. Ça lui fait mal. Il se dit qu'il doit être déjà né et ne semble pas avoir un enfant pour partager leur corps. Philippe se dit, je ne devais certainement pas beaucoup compter pour eux. Est-ce pour ça? Sans doute qu'ils m'ont mis en pension. Et c'est pour ça que je les ai oubliés. Cette pensée lui fait mal. Et en même temps, ça le soulage. Parce qu'il se sent moins coupable de les avoir oubliés. Oui, les avoir oubliés. Il se dit que ce devait être un couple très mondain, que pour eux la vie de famille ne devait pas beaucoup compter. Et puis, il se dit, je pense à ça comme ça, mais c'est pour me déculpabiliser, de mettre tous les torts sur eux, ce n'est pas bien. Surtout qu'ils ne peuvent se défendre. Et puis, pourquoi est-ce que ce serait vrai? Tu n'es qu'un égoïste. Il ferait n'importe quoi pour garder tes petits, ta petite vie bien tranquille. La preuve, tu accuses tes parents de ce que tu t'accuses d'égoïste. Ça te déprime encore plus. Tu mérites la mort. Il cherche à se punir de suite. Oui. De suite, d'avoir eu des pensées pareilles sur ses parents. Alors, ouvre un tiroir. En sort un compas. Et se pique le bras. Il sent, gicle, n'a pas eu très mal, mais et puis c'est juste une piqûre. Si ça ne s'infecte pas, ça se soignera vite. Elle ne saignera pas longtemps. Et puis justement, pour arrêter le sang, il prend son mouchoir sale et le met sur le trou qui s'est fait. Sale, peut-être ça va infecter et ça l'aidera à mourir. Il tamponne, le sang s'arrête de couler. Remet le compas en place. Se trouve ridicule. Ridicule. Le souvenir de ses parents mérite mieux que ses enfantillages. À la première occasion, il se donnera la mort. Oui, à la première occasion, il se donnera la mort. Pèse la photo et la met dans son portefeuille. Le portefeuille dans la poche arrière de son pantalon. comme cela il pourra la regarder tous les jours, n'importe où. Le soir, avant de se coucher, il la regarde durant les cours, dans le métro. Un jour, Bernard lui dit, « Moi, je fais tout pour avoir mes examens. C'est pour mes parents, tu comprends, ça leur ferait tellement plaisir. » Alors Philippe se dit que lui aussi, pour ses parents, il doit réussir son examen et il travaille d'arrache-pied en pensant à eux. Mais à part sa préparation d'examen, Nagou a rien. Il se pose toujours des questions, ou plutôt, au lieu de se poser des questions, il se sent coupable, oui, coupable, d'avoir oublié ses parents et d'avoir vécu une vie de luxe près de son oncle et d'un oncle aimant. Mais en fait, il ne sait plus où il en est. Oui, il ne sait plus où il en est. À la sortie de ses cours de soir, il voit Daniel. Il lui dit, Samy, tu me donnes une nouvelle parce que tu n'en donnes plus. Nous sommes inquiets, Caroline et moi. Tu es malade ? Philippe, gêné, lui dit, non, mais j'ai mes examens et c'est très prenant. Tu comprends, j'ai beaucoup de matières scientifiques et générales, la chimie, les maths, la biotech, la technique, informatique, etc. Sans compter l'enseignement général. Et c'est très dur, tu sais. Daniel lui dit, je comprends, mais tu aurais dû tout de même c'est nous envoyer un mot pour nous dire que tu étais très pris. Philippe lui dit, j'y ai pas pensé, pardonne-moi. Viens, allons boire un verre. Ils vont à un café, brasserie, qui se trouve pas bien loin de l'école. Se mettent à une table. Il y a du monde. Un serveur, petit, blond, habillé en serveur, pantalon noir et chemise blanche, vient à eux. Vous désirez ? Philippe demande, qu'est-ce que tu veux prendre ? Daniel lui dit, comme toi. Alors, deux jus d'orange. Le serveur se retire. Philippe demande, Caroline va bien ? Oui, elle va bien. Elle fait toujours des petits boulots. N'arrive pas à se faire prendre pour un film, un rôle. Pour les filles, il n'y a que du cul. On lui a proposé une émission genre colocataire sur M6. Elle ferait semblant d'être, disons, une étudiante pour participer à l'émission comme ça. Nourrie, logée durant 6 mois. Mais elle a refusé. Elle a dit que ça ruinerait sa carrière de comédienne. Le serveur leur apporte la boisson. Philippe paye. Ils boivent en silence. Philippe demande, et toi ? Moi, rien. Je traîne dans les soirées, comme avant. Des fois, je fais draguer, mais je refuse. Quoique, ça pourrait servir pour plus tard. Philippe lui demande, mais en réalité, qu'est-ce que tu dois faire pour plus tard ? Daniel lui dit, je verrai, Et toi ? Cette question paralyse Philippe. Lui ne sait pas ce qu'il veut faire après son diplôme. Ne se voit pas travailler avec son oncle. Toujours avec son oncle. Il répond, je ne sais pas, je suis pensé paralysé par mes examens pour le moment. Daniel lui dit, ne fais pas de soucis, ça se passera très bien. Merci. Philippe regarde sa montre et lui dit, il faut que je rentre, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Daniel lui dit, je te comprends, je peux te raccompagner si tu veux. Et ils sortent du café. Ils vont prendre le car pour entrer. Le soir, comme Daniel va chez Caroline, il lui dit, j'ai vu Philippe, il est très pris à cause de ses examens. Oui. J'ai vu Philippe. Et il est très pris à cause de ses examens. Et lui dit, il ne faut pas qu'il nous oublie. Un mec plein de fric, on ne peut pas le lâcher. Daniel lui dit, ne fais pas de soucis, moi aussi j'ai besoin de lui. L'amitié de Philippe leur est précieuse, très précieuse. Philippe, dans son lit, pense à ses parents. Il se demande ce qu'a été leur vie. Tout d'un coup, il se dit, et l'oncle, dans tout ça ? Réfléchit et pense à ce que lui a dit le commissaire de police. De toute façon, c'est un commissaire à la retraite. Son oncle aurait été l'instigateur de l'accident de ses parents. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et qu'est-ce qui le prouve ? Il se demande pourquoi il a arrêté l'enquête et a fait conclure à un accident. Il a peut-être fait ça pour éviter un scandale. Mais quoi ? Quel scandale ? Pourquoi est-ce que ses parents auraient été tués ? Pour une affaire d'argent ? Et ça avait été son oncle le coupable. Pourquoi aurait-il pris leur fils ? Il aurait pu tout simplement payer la pension. Avant, il n'a jamais prouvé, son affection pour lui. Alors, il se dit que toutes ces questions qu'il se pose cachent sa peine de ne pas avoir suffisamment aimé ses parents, sa peine de ne pas avoir pensé à eux durant toutes ces années. Mais l'oncle, malgré toutes ces questions, il se pose et se montre avec son oncle normalement et tendrement. Un soir, Philippe, au salon, après le repas, demande à son oncle « Comment étaient mes parents ?» L'oncle est surpris et lui demande « Pourquoi ?» « Eh bien voilà, ta mère était très douce, aimante. Je l'ai connue dès sa naissance, tu sais. Elle était toujours une jeune fille sérieuse et gentille. » Philippe lui demande « Et mon père ?»«
Oh, ton père aussi, il a été un bon mari. Il travaillait chez moi comme ingénieur. » Dans un atelier de recherche. Elle a rencontré ma nièce et se sont plus mariés.
Ça n'a pas créé des jalousies que ta nièce se marie avec un de tes employés?
Ton père était une personne exceptionnelle et c'est moi qui les ai présentés. Ils formaient un très beau couple, tu sais, et très élégant.
Tu étais sûr qu'il s'aimait? Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La liberté des dieux. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.